Chapitre 18.
Bon Dieu, fit Eddie, qu'est-ce que c'est que ces gens-là?
Susanna et lui avaient suivi la rue au pied de la rampe sur une distance de 2 pâtés de maison. Ils avaient aperçu la barricade qui se dressait droit devant, manquant de moins d'une minute l'entrée de Roland dans la venelle partiellement dissimulée, et, mettant le cap sur le nord, avaient pris une voie plus large qui avait rappelé la 5e avenue à Eddie. Il n'avait pas osé le dire à Susanna. Elle était encore trop sous le coup de la déception à la vue de cette cité puante et en ruine pour lâcher une remarque optimiste. La 5e avenue les conduisit dans une zone de grands immeubles de pierre blanche qui évoquèrent à Eddie la Rome des films de gladiateurs qu'il regardait enfant à la télé. Les bâtisses étaient austères et, dans l'ensemble, en bon état. Eddie était prêt à parier qu'il s'agissait d'édifices publics, galeries, bibliothèques, peut-être des musées. L'un, coiffé d'un vaste toit en dôme qui s'était craquelé comme un œuf de granit, était peut-être un ancien observatoire. Bien qu'Eddie eût lu quelque part que les astronomes aimaient à être à l'écart des métropoles, parce que toutes les lumières électriques foutaient la merde dans l'observation qu'ils faisaient des étoiles. Il y avait des échappées entre ces imposants édifices. Et si le gazon et les fleurs d'autrefois avaient été envahis par les mauvaises herbes et un fouillis de broussailles, l'endroit avait conservé un aspect majestueux. Eddie se demanda s'il avait constitué jadis le noyau de la vie culturelle de Lude. Cette époque, bien sûr, remontait aux calendes grecques. Eddie doutait fort que Garcher et ses comparses fissent montre d'un quelconque intérêt pour les ballets ou la musique de chambre. Susanna et lui étaient parvenus à un embranchement important d'où partaient 4 larges avenues telles les rayons d'une roue. En son moyeu s'étendait une spacieuse place pavée, ceinte de haut-parleurs fichés sur des poteaux d'acier hauts de 12 mètres. Au centre de la place se dressait un piédestal soutenant les vestiges d'une statue. Un puissant destrier de cuivre, vert de grisé, lançant ses antérieurs dans les airs. Le guerrier qui avait jadis monté ce cheval de bataille reposait à côté sur son épaule corrodée, brandissant d'une main ce qui ressemblait à une mitrailleuse et une épée de l'autre. Ses jambes enlaçaient toujours le corps de son ancienne mouture, mais ses bottes étaient demeurées soudées à ses flancs de métal. « Mort au gris !» barrait le piédestal en lettres d'un orange fané. En observant les avenues en étoiles, Eddie vit les poteaux des haut-parleurs plus en détail. Si certains étaient tombés, la plupart étaient toujours debout et chacun s'ornait d'une macabre guirlande de cadavres. Par voie de conséquence, la place sur laquelle débouchait la 5e avenue, ainsi que les rues qui en rayonnaient, étaient confiées à la garde d'une petite armée de morts.
« Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? » répéta Eddie.
Il n'attendait pas de réponse et Susanna ne lui en donna pas, mais elle aurait pu. Elle avait déjà eu auparavant des visions du passé du monde de Roland, mais aucune n'avait jamais été si nette et certaine que celle-là. Toutes ses visions précédentes, comme celles qu'elle avait eues à River Crossing, avaient une qualité obsédante, à l'instar des rêves. Mais l'expérience qu'elle vécut alors survint en un flash unique, et ce fut comme si elle voyait la face tordue d'un dangereux maniaque à la lueur aveuglante d'un éclair. Les haut-parleurs, les corps pendus, la batterie. Elle comprit tout à coup ce qui les reliait aussi clairement qu'elle avait compris que les chariots lourdement chargés qui traversaient jadis River Crossing pour se rendre à Jimtown étaient tirés par des bœufs et non par des mules ou des chevaux.
« Oublie cette racaille !»
dit-elle d'une voix qui tremblait à peine.
« C'est le train qui nous intéresse. Quelle route, d'après toi ?»
Eddie leva les yeux sur le ciel qui s'obscurcissait et repéra sans mal le sentier du rayon parmi les nuages qui filaient. Il baissa ensuite son regard sur le sol et ne fut guère surpris de constater que l'entrée de la rue correspondant au plus près au sentier du rayon était gardée par une grosse tortue de mer en pierre. Sa tête reptilienne pointait hors de la fente de sa carapace de granit. Ses yeux profondément enfoncés semblaient les observer avec curiosité. Eddie la désigna d'un signe de tête et eut un pauvre sourire.
« Tu vois la tortue comme elle est ronde ?»
Susanna lui jeta un coup d'œil et acquiesça. Eddie poussa le fauteuil sur la place et s'engagea dans la rue de la tortue. Les cadavres qui la flanquaient exhalaient une sèche odeur de cannelle qui fit se révulser l'estomac du garçon. Non qu'elle fût désagréable, bien au contraire, l'arôme d'épices sucrées qu'un gosse serait ravi de saupoudrer sur ses tartines grillées du matin. La rue de la Tortue, Dieu merci, était large, et la plupart des cadavres accrochés aux poteaux n'étaient guère plus que des momies. Susanna, cependant, en vit certains relativement récents. Des mouches très affairées rampaient encore sur la peau noircissante de leurs faces gonflées et des asticots sortaient en se tortillant de leurs yeux pourrissants. Et au pied de chaque poteau s'empilait un petit ados.
« Il doit y en avoir des milliers, » dit Eddie, « hommes, femmes et enfants. »
« Oui ?» répondit Susanna d'une voix calme qui parut lointaine et bizarre à ses propres oreilles.
« Ils ont beaucoup de temps à tuer, et ils l'ont mis à profit pour se massacrer entre eux. Faites entrer en scène ces satanés elfes pleins de sagesse !»
s'écria Eddie. Le rire qui suivit son exclamation ressembla fort à un sanglot. Eddie pensa qu'il commençait enfin à comprendre pleinement la signification réelle de cette phrase innocente. Le monde a changé, et la masse d'ignorance et de mal qu'elle recouvrait, et sa profondeur. Les haut-parleurs étaient une mesure de temps de guerre, pensa Susanna. Aussi évident que deux et deux font quatre. Dieu seul sait quelle guerre ou à quelle époque elle a eu lieu. Mais il a dû y avoir un sacré truc. Les maîtres de Lude utilisaient les haut-parleurs pour faire des annonces dans toute la cité de quelques points centrales, à l'abri des bombes, un bunker transformé en QG comme celui où Hitler et son haut-état-major se sont réfugiés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ses oreilles résonnait la voix de commandement et d'autorité qui avait grondé de ces haut-parleurs aussi distinctement qu'elle avait entendu le grincement des chariots traversant River Crossing et le claquement du fouet sous l'échine des bœufs peinant sous les forts.
Les centres de ravitaillement A et D seront fermés aujourd'hui. Veuillez vous rendre aux centres B, C, E et F munis d'étiquettes appropriées. Escouade de milice 9, 10 et 12, au rapport à Sunside. Bombardement aérien prévu entre 8 et 10 heures. Tous les non-combattants devront se présenter aux abris qui leur ont été assignés. Apportez vos masques à gaz. Je répète, apportez vos masques à gaz.
Des annonces, oui. Et une version dénaturée des nouvelles. Une version de propagande militante que George Orwell aurait qualifiée de « mentir vrai ». Et entre les bulletins d'information et les annonces de la musique militaire criarde, et des exhortations à respecter les soldats tombés au champ d'honneur, envoyant davantage d'hommes et de femmes dans la gueule sanglante de l'abattoir. Puis la guerre avait pris fin, et le silence s'était abattu, pour un temps. Car à un moment donné, les haut-parleurs s'étaient remis à diffuser. Quand ? 100 ans plus tôt ? 50 ? Quelle importance, pensa Susanna. Ce qui importait, c'était que lorsque les haut-parleurs avaient été réactivés, la seule chose qu'ils eussent diffusée était une unique bande enregistrée, celle avec le morceau de batterie. Et les descendants des habitants originels de la cité l'avaient prise pour... Pourquoi ? La voix de la tortue ? La volonté du rayon ? Susanna se surprit à se rappeler la fois où elle avait demandé à son père, un homme paisible, mais profondément cynique, s'il croyait à l'existence d'un dieu dans le ciel qui dirigeait le cours des événements humains.
« Eh bien, » m'avait-il répondu, « oui et non, Odette. Je suis sûr que Dieu existe, mais, à mon avis, il ne se préoccupe guère, sinon pas du tout, de nous, ces temps-ci. Je crois que depuis que nous avons tué son fils,
Il a fini par se persuader qu'il n'y avait rien à tirer des fils d'Adam et des filles d'Ève, et qu'il s'est lavé les mains de nous. Sage bonhomme. En réponse à cette déclaration, qu'elle attendait, elle avait 11 ans à l'époque et connaissait comme sa poche la tournure d'esprit de son paternel. Susanna lui avait montré un entrefilet à la page des églises communautaires dans le journal local où l'on annonçait que le révérend Murdoch de l'église méthodiste de la Grâce explicitait ce dimanche-là le sujet « Dieu parle chaque jour à chacun de nous par un texte tiré de la première épître aux Corinthiens ». Son père en avait ri aux larmes. « Bon, je suppose que chacun de nous entend quelqu'un lui parler », avait-il dit ensuite. « Et tu peux parier ton dernier dollar sur une chose, mon cœur. Chacun de nous, y compris ce révérend Murdoch ici nommé, entend cette voix lui dire exactement ce qu'il souhaite entendre. C'est tellement plus commode. » Ce que ces gens-là avaient apparemment voulu entendre dans le morceau de batterie enregistré était une invitation à commettre un meurtre rituel. Et désormais, chaque fois que la batterie commençait à vibrer à travers ces centaines ou ces milliers de haut-parleurs, un martèlement rythmique qui n'était en fait que la percussion d'une chanson des ZZ Top intitulée Velcro Fly, à en croire Eddie, elle devenait pour eux le signal de tendre les cordes et de hisser une poignée de pauvres bougres en haut des premiers poteaux qui leur tombaient sous la main. « Combien ?» se demanda-t-elle, tandis qu'Eddie poussait son fauteuil, dont les pneus de caoutchouc dur entaillés et cabossés grinçaient sur du verre brisé, suintaient sur des amas de papier au rebut. « Combien de gens ont-ils été tués au fil des années parce qu'un circuit électronique sous la cité a eu le hoquet ? Cela a-t-il commencé parce qu'ils ont reconnu le caractère fondamentalement étranger d'une musique venue, comme nous et l'avion et quelques voitures le long de cette rue, d'un autre monde ? Elle l'ignorait. Elle savait toutefois qu'elle avait dorénavant fait sien le point de vue cynique de son père pour ce qui avait trait à Dieu et aux conversations qu'il pouvait ou non avoir avec les fils d'Adam et les filles d'Ève. Ces gens-là avaient cherché une raison de s'entretuer, c'est tout. Et la batterie leur en avait fourni une aussi valable qu'une autre. Elle songea à la ruche qu'ils avaient croisée, la ruche difforme des abeilles blanches dont le miel les aurait empoisonnés s'ils avaient été assez fous pour en manger. Ici, sur cette rive de la Sande, une autre ruche agonisait, avec d'autres abeilles blanches et mutantes, dont le dard, en dépit de leur confusion, de leur égarement et de leur perplexité, ne serait pas moins mortel. Et combien encore devront mourir avant que la bande ne se casse ? Comme si ces pensées avaient suffi pour les déclencher, les haut-parleurs se mirent soudain à retransmettre l'impitoyable battement syncopé de la batterie. Eddie en cria de surprise. Susanna hurla et se boucha les oreilles, mais elle eut encore le temps d'entendre faiblement le reste de la musique. Là où les pistes qui avaient été mises en sourdine des dizaines d'années auparavant quand quelqu'un, sans doute par hasard, avait touché le bouton « balance », le fermant à fond d'un côté, réduisant ainsi au silence les guitares et la partie vocale. Eddie continuait de la pousser dans la rue de la Tortue et le long du sentier du rayon, tentant de regarder dans toutes les directions à la fois et de ne pas humer l'odeur de putréfaction. « Merci, mon Dieu, pour le vent, » pensa-t-il. Il pressa l'allure, scrutant les trouées qu'envahissait l'herbe entre les massifs édifices blancs à la recherche de la gracieuse trajectoire d'un monorail aérien. Il voulait sortir de cet interminable corridor de la mort. Quand il aspira une nouvelle bouffée de cette odeur insidieusement douce de cannelle, il lui sembla qu'il n'avait rien désiré aussi ardemment de toute sa vie.